Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Du Grain à Moudre. C'est déjà notre dernier rendez-vous de la semaine, une émission enregistrée hier matin et que vous pourrez réécouter et commenter en vous rendant sur notre site franceculture.fr. C'était en 1999, le débat puis l'adoption du PACS, dans un climat parfois nauséabond, souvent houleux, toujours passionné, entre ceux qui défendaient cette nouvelle forme d'union civile et ceux qui la combattaient. C'était en 1999, il y a une éternité si l'on en juge par le chemin parcouru depuis une douzaine d'années. Entre-temps, la droite, d'abord hostile au PACS, l'aura modernisé. Et voici qu'aujourd'hui, la France s'apprête à autoriser et le mariage homosexuel et l'adoption par des couples du même sexe. D'après un sondage IFOP publié en mars, une majorité de Français y serait désormais favorable, majorité nette s'agissant du mariage. Et cela tombe bien, François Hollande en avait fait un des éléments de son programme, c'est écrit noir sur blanc dans sa proposition 31, « J'ouvrirai le droit au mariage et à l'adoption aux couples homosexuels », ajoutant qu'il le ferait au plus tard au printemps 2013. Maintenant qu'il est élu, le nouveau président aura du mal à faire machine arrière. Il peut compter sur le soutien indirect de Barack Obama, lequel se prononçait la semaine dernière à titre personnel en faveur du mariage homosexuel. Grande première pour un président américain en exercice, qui plus est en pleine campagne électorale. Mais le président français ne manquera pas non plus de rencontrer des résistances du côté de celles et ceux, encore nombreux, qui considèrent que le mariage ne peut être contracté qu'entre un homme et une femme, qu'un enfant, s'il est élevé par un couple, doit l'être par un couple hétérosexuel. Alors que se déroule aujourd'hui la Journée mondiale contre l'homophobie, nous avons voulu savoir quel bouleversement la famille française était prête à accepter. Famille, les homos peuvent-ils toujours rêver? C'est notre sujet du jour. Et ils sont quatre dans ce studio pour en discuter. Mathieu Naussant, bonsoir.
Bonsoir.
Porte-parole de l'APGL, l'association des parents gays et lesbiens. L'APGL qui milite pour la reconnaissance de l'homoparentalité en France. Pour discuter avec vous, Henri Joyeux, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes chirurgien cancérologue, mais c'est au titre de président du mouvement Famille de France que vous êtes parmi nous aujourd'hui. Vous présidez ce mouvement depuis 2001. C'est une association qui a été fondée en 1921 qui a pour objectif, c'est ce qu'on peut lire sur le site internet, de défendre les intérêts matériels et éthiques des familles. Troisième invité, Natacha Chetkuti. Bonsoir.
Bonsoir.
Sociologue, docteur en anthropologie sociale au CESP INSERM. Vous êtes l'auteur chez Paillon en 2010 de « Se dire lesbienne, vie de couple, sexualité, représentation de soi ». Et puis le quatrième invité, c'est Eric Fassin. Bonsoir.
Bonsoir.
Sociologue également, chercheur à l'Institut de recherche interdisciplinaire sur les enjeux sociaux. Votre dernière publication, c'était il y a quelques semaines de cela, la découverte « Démocratie précaire, chronique de la déraison d'État ». Mais vous avez publié un certain nombre d'ouvrages consacrés à la question homosexuelle. Je précise qu'on vous retrouve par ailleurs régulièrement dans la grande table de Caroline Brouet. Alors j'évoquais Mathieu Naussant dans l'introduction, à la fois les engagements pris par François Hollande durant sa campagne et l'annonce la semaine dernière de Barack Obama, vous qui présidez donc l'association des parents gays et lesbiens. Laquelle de ces deux nouvelles, c'est-à-dire entre l'élection de François Hollande et la déclaration de Barack Obama, vous semble la plus importante aujourd'hui pour la cause que vous défendez?
Je dirais concrètement probablement l'élection de François Hollande, parce que effectivement ça veut dire que on va avoir un président de la République. Enfin, on a aujourd'hui, on est encore un peu dans l'irréel parfois, on a aujourd'hui
il a été investi
il y a très peu de temps. On a un président de la République qui s'est clairement engagé en faveur de la reconnaissance des familles homoparentales et de l'ouverture du mariage aux couples de même sexe. Voilà, et c'est quelqu'un avec lequel on discute, on a discuté avec lui pendant l'ensemble de la campagne. Donc voilà, je dirais concrètement, c'est probablement cet élément-là. Ensuite, symboliquement, c'est vrai que la déclaration de Barack Obama est également quelque chose de très important dans un pays où on sait qu'il y a beaucoup d'opposition sur ce sujet-là. C'est un sujet clivant partout, hein, je dirais, mais aux États-Unis particulièrement. Et par ailleurs, c'est très significatif aussi parce qu'il est lui aussi en campagne électorale et on voit bien donc que dans un certain nombre de pays, se déclarer favorable à l'égalité des droits entre les hétérosexuels et les homosexuels pendant une campagne électorale ne nuit pas à la possibilité d'être élu. Et ça, c'est quelque chose, un élément assez nouveau. Voilà.
Alors, la Fédération Famille de France que vous présidez, Henri Joyeux, a adressé un message au nouveau président de la République, François Hollande, de félicitations, dans lequel message, alors il y a un certain nombre de sujets qui sont évoqués, mais on peut lire ceci. Les familles souhaitent que tout enfant dès sa naissance puisse avoir un père et une mère et que le PACS soit aménagé, facilité pour les personnes de même sexe ou de sexe différent, désirant vivre ensemble. Est-ce que c'est pour vous, pour votre fédération, une façon de dire sans l'écrire que vous n'êtes pas favorable au mariage homosexuel?
Attention, c'est un sujet qui est hyper important et on ne résout pas un tel sujet par oui ou par non. Il faut réfléchir, il faut anticiper. Il s'agit des enfants. Pour nous, c'est notre rôle de défendre les enfants dans le cadre de la famille. Et donc, il faut essayer de voir un petit peu ce qui se passe dans notre pays aujourd'hui.
Il peut y avoir mariage sans enfant, hein?
Oui, bien sûr, je sais bien. Mais vous savez certainement comme moi qu'il y a 30 000 familles, hommes-femmes, qui veulent adopter un enfant et qui ne trouvent pas adopter un enfant. Bien. Alors, on va essayer d'anticiper et de réfléchir au fait que la loi passerait, puisque c'est très probable avec le nouveau président de la République que nous avons. Et nous disons, voilà, imaginons qu'il y a ces 30 000 hommes-femmes qui veulent adopter un enfant, et puis qu'il y aurait 15 000 hommes-hommes pour faire égalité et 15 000 femmes-femmes qui veulent adopter un enfant. Ils auraient tous l'agrément. Il naît actuellement en France à peu près 600 à 700 enfants qui naissent sous X et qui sont donc adoptables. Alors, on va imaginer Jules et Julie. À qui vous donnez Jules et Julie? À papa et maman? À deux papas? Vous leur dites, toi, tu as deux papas, tu n'auras pas de maman. Toi, tu auras deux mamans, tu n'auras pas de papa. Je ne vois pas comment on va pouvoir sélectionner ou donner une réponse à cet enfant. D'autant que, attendez, laissez-moi finir. Moi, je vois l'arrivée de l'enfant à 18 ans ou à 20 ans qui va dire, attendez, moi, vous m'avez donné deux papas, vous m'avez pas fait le choix. Je dis bien, et vous l'avez lu dans le communiqué, c'est dès la naissance. Dès la naissance, c'est dès la naissance. C'est-à-dire, l'enfant né, il est adoptable. Je ne parle pas des familles où il peut y avoir un père qui change d'orientation ou une mère change d'orientation. Il faut faire très attention à ce qu'on dit et être très sérieux sur le sujet.
Henri Joyeux, vous avez remarqué, je vous ai posé une question sur le mariage et vous êtes tout de suite allé sur la question de l'adoption. Pour vous, les deux questions sont forcément liées.
Mais l'un est lié à l'autre. Si vous êtes au Portugal, vous pouvez vous marier en étant une personne de même sexe, mais vous ne pouvez pas adopter un enfant. En France, c'est oui, vous pouvez adopter un enfant.
Natacha Chetkouti, à partir du moment où on évoque la question du mariage homosexuel, celle qui vient forcément derrière, c'est celle de l'adoption. Ou bien est-ce qu'on peut dissocier aujourd'hui ces deux sujets? Même si dans sa proposition 31, François Hollande les associe effectivement ces deux sujets.
Mais je trouve ça intéressant dans la manière dont vous l'articulez, parce que en fait, la question de la revendication du mariage, qui d'ailleurs est née, a été davantage portée au départ par les mouvements gays que lesbiens, dans le contexte de la crise du sida, avait pour volonté de reconnaître une légalité d'union entre personnes de même sexe. Et justement, ce mariage-là, moi je trouve qu'on n'aurait pas intérêt à le signifier comme gay et lesbien, mais mariage tout court, serait à égale portée pour tout le monde, dissocie justement la question de la procréation du mariage. C'est justement là la portée, je trouve, de cette revendication, d'une part. D'autre part, ne repose pas justement sur une rhétorique de la différence des sexes présupposée, nécessaire et complémentaire pour constituer le couple. Par exemple, si on prend le cas de l'Espagne, il y a le mariage est légalisé en Espagne, il n'y a pas forcément plus d'adoptions que dans d'autres pays, et surtout ça ne dérègle en rien la question des rapports sociaux. Donc je crois que l'intérêt, c'est justement là, c'est de dissocier procréation et mariage dans cette, on pourrait dire, volonté universaliste d'égalité du choix, c'est-à-dire l'idée que puisque ce dispositif existe, c'est à chaque individu de s'en emparer ou pas. Après, on peut être critique, à mon sens, sur la manière dont sont portées ces revendications, c'est-à-dire qu'elles portent évidemment sur la base du couple comme reconnaissance de l'homosexualité. Et certains mouvements aspirent à long terme à penser plus à un droit qui serait en référence à la personne et non pas au couple. Mais ça, c'est encore une autre étape.
On peut d'ailleurs aussi y voir la revendication d'intégrer une institution. Je parle du mariage qui, en d'autres temps, pouvait aussi être vu comme une institution peut-être particulièrement réactionnaire, ce qui peut sembler peut-être finalement assez paradoxal, Éric Fassin.
Alors oui, c'est un paradoxe. Et effectivement, par exemple, aux États-Unis, l'opposition à cette revendication est venue non seulement des conservateurs, mais aussi d'une part de la communauté, pour utiliser ce terme, gay et lesbienne, qui trouvait que c'était en quelque sorte entré dans le jeu de la normalisation. Je crois que le contexte est assez différent en France, et tout simplement parce que ça n'est pas seulement à droite, mais même à gauche, qu'on a entendu tenir un discours de l'ordre symbolique, c'est-à-dire qu'il fallait préserver la famille, et donc c'est aussi contre cela que s'est définie la revendication du mariage et de l'accès à la filiation. Alors il y a un élément qui me paraît, plusieurs éléments me paraissent intéressants dans ce qui vient d'être dit. Le premier, c'est effectivement le lien entre mariage et filiation, qui ne joue pas de la même manière aux États-Unis, puisque aux États-Unis, au fond, lorsque Barack Obama parle de soutenir l'ouverture de mariage aux couples de même sexe, il n'est pas du tout question de la filiation, parce que la filiation s'est déjà jouée par ailleurs, et sans aucun lien avec la question du mariage. C'est la première chose. La deuxième, c'est qu'en France, lorsqu'on dit l'adoption, il faut bien rappeler que, certes, le mariage ouvre le droit à l'adoption conjointe, mais qu'on peut par ailleurs adopter à titre individuel, y compris d'ailleurs lorsqu'on est marié.
Là est l'erreur.
Mais c'est la loi de 1966, et ce qui est intéressant, c'est que ce qui est aujourd'hui considéré par certaines et certains comme une erreur, en fait, ça a été révélé comme une erreur de leur point de vue par la revendication des couples de même sexe. C'est-à-dire que la justification par la différence des sexes, elle est apparue tardivement, non pas en 1966, non pas dans les années 70 ou 80, mais à partir du moment où il y a eu revendication par les couples de même sexe.
Henri Joyeux, quand vous dites là et l'erreur, ça veut dire que oui, vous souhaiteriez qu'on revienne sur la loi de 1966, qu'un célibataire qui n'a pas de lien particulier avec un enfant ne puisse pas adopter.
Une loi a une origine, a une histoire. Et cette histoire, c'est la guerre. Vous avez eu la guerre de 14, vous avez eu la guerre de 40, et il s'est avéré qu'il y a eu des familles qui ont été décimées, et où il a été rendu nécessaire l'adoption par des personnes qui se sont retrouvées toutes seules, qui adoptaient leurs enfants, leurs neveux, etc., leurs voisins. Nous ne sommes plus en guerre. C'est pas du tout la même chose. Donc ça veut dire que quand on utilise l'argument de l'adoption monoparentale, puisque l'adoption monoparentale est possible, il n'y a pas de raison que ça ne soit pas une adoption par deux personnes de même sexe. Mais le problème, il n'est pas là. Le problème, c'est celui de l'enfant, encore une fois. Et on n'a pas répondu à ma question, à savoir que quand vous avez Jules et Julie qui naissent, est-ce que vous les donnez à papa-maman, à deux papas ou à deux mamans? C'est ça la réponse. Et c'est là que le président de la République doit répondre à cette question. Et je ne vois pas comment il peut répondre à la question.
Mathieu Dossan. Je voudrais intervenir sur deux choses. La première chose, c'est que là, ça veut dire que vous, enfin, aujourd'hui, il y a à peu près 30% des demandes d'adoption qui sont faites par des célibataires. Donc c'est un nombre qui est quand même considérable. Par ailleurs, il y a dans l'adoption.
Il y a très peu qui l'ont.
Il y a quand même pas mal qui l'ont. Et par ailleurs, ils adoptent à l'étranger. Là, vous posez la question de l'adoption d'un enfant français, mais effectivement, ils ne peuvent pas adopter en France. Ils adoptent à l'étranger. Donc la question que vous posez est.
Alors, laissons terminer la réponse à
Mathieu. Actuel. Et par ailleurs, quand on parle d'adoption, on ne parle pas simplement d'adoption d'un enfant par un couple, d'adoption conjointe. On parle aussi de l'adoption de l'enfant d'un couple par ce qu'on appelle le deuxième parent, c'est-à-dire par le parent social. Il faut savoir qu'aujourd'hui, comment sont constituées les familles homoparentales? Elles sont constituées de plein de façons. Elles existent déjà, il y a déjà des enfants qui vivent dans ces familles. Elles peuvent être constituées par le biais d'une insémination artificielle, par exemple pour les couples de lesbiennes. Elles peuvent être constituées par le biais de la gestation pour autrui dans les pays où cette pratique est légalisée. Donc, en fait, il y a aujourd'hui des enfants qui sont dans des familles homoparentales, qui ont aujourd'hui dans leur vie deux parents, mais qui n'ont qu'un seul parent reconnu, puisque l'homoparentalité n'est pas reconnue. Donc, cette ouverture de l'adoption permettrait au deuxième parent d'adopter l'enfant.
Et voilà, ça, parce c'est important de préciser, effectivement, oui, c'est que l'homoparentalité n'est pas reconnue légalement, mais elle existe de fait. Et vous,
absolument.
Ce que vous demandez, c'est une régularisation.
C'est
finalement.
Tout à fait ça, c'est faire en sorte que ces familles qui existent et qui ont une réalité quotidienne soient reconnues par la loi pour que les enfants soient protégés. On parle de l'intérêt de l'enfant. Nous parlons aussi de l'intérêt de l'enfant. L'intérêt de l'enfant, c'est à partir du moment où il vit dans un contexte particulier, il soit protégé dans ce contexte-là. Il y a un lien avec l'ensemble de ses parents. Dans les cas, notamment, où il y a des événements de la vie qui font qu'il peut y avoir une séparation entre les deux parents, il peut y avoir un décès du parent légal. Et dans les cas de la réalité quotidienne aussi, où aujourd'hui, on se trouve parfois dans des situations complètement ubuesques parce que effectivement, il y a un des deux parents qui n'est pas reconnu.
Parce que, Henri Joyeux, vous parlez de l'intérêt de l'enfant, mais ces enfants qui vivent déjà dans des familles homoparentales, qu'est-ce qu'on en fait?
Mais là, je suis d'accord et je rejoins, ce sont des cas qui sont et qui existent et qu'il faut reconnaître. Bien. Mais ce n'est pas une raison pour reconnaître à la naissance, parce que c'est
comment,
là... Attendez, laissez-moi
vous
finir.
Les reconnaissez,
non, mais à la naissance, l'enfant, moi je vous dis, comment faites-vous pour dire à cet enfant, toi tu auras deux papas et pas de maman, toi tu auras deux mamans et pas de papa, et toi tu auras un papa et une maman. Vous tirez au sort, comment faites-vous? Donnez-moi une réponse.
Moi, je crois qu'on est quand même dans un contexte aussi qui s'est largement modifié d'un point de vue sociologique. Oui. C'est qu'aujourd'hui, on a une pluralité de modèles familiaux, familles recomposées, familles monoparentales, en général des femmes seules, qui élèvent...
Qui souffrent beaucoup. Je travaille le dossier précarité femmes monoparentales.
En tout cas, et qu'on est dans des situations sociologiques où l'union entre les personnes... Puisque là, en fait, on est en train de dériver. On ne parle plus du tout du mariage depuis tout à l'heure. Mais de la question de la procréation. Ouais. Mais moi, je crois que c'est important de dissocier les deux. Et la question de la revendication du mariage homosexuel, là où elle a un intérêt, c'est dans cette dissociation-là. Et qu'en plus, cette union qui reposerait sur la nature d'un contrat où, au fond, les individus reposent sur la volonté des individus, il faut bien dissocier ça, de la question de l'homoparentalité qui... effectivement permettrait de revendiquer la question du droit à la filiation, à la paternité. Et en cela, je ne vois pas...
Comment ? Mettons-le dans le PACS.
Mais pourquoi ? Je ne vois pas en quoi ça peut être dérangeant que ça soit légalisé en tant que tel. Le principe de l'altérité ne repose pas sur celui de la différence des sexes. On le voit bien dans la diversité des modèles existants déjà.
Éric Fassin.
Je trouve que notre discussion montre à la fois une continuité avec le débat tel qu'il s'est déroulé depuis une quinzaine d'années, c'est-à-dire la crainte que l'ouverture de la conjugalité ne débouche sur l'ouverture de la filiation. Et
oui,
c'est une spécificité qu'on ne retrouve pas aux États-Unis par exemple. Mais par ailleurs, il y a une évolution qui est tout à fait frappante.
Crainte justifiée, cela dit, quand on regarde justement la proposition de François Hollande, puisqu'il dit « j'ouvrirai le droit au mariage et à l'adoption pour les couples homosexuels ». C'est vrai qu'il le met exactement dans la même phrase.
Bien sûr, mais c'est parce que dans le contexte français, on se dit « bon, le mariage, à la limite, c'est pas très grave, mais quand même, la filiation, c'est très important ». Et cette forme-là du débat, elle est relativement caractéristique de la France et plus largement de l'Europe, c'est-à-dire parce que ça touche à la filiation, et la filiation, c'est à la fois la famille et la nation. Et là, j'étais très frappé dans la discussion d'entendre effectivement le déplacement de la question, puisqu'il ne s'agissait plus de la filiation en général, dans le propos de M. Joyeux, mais de l'adoption, et plus exactement de l'adoption des enfants français. C'est-à-dire que, d'une part, était laissée de côté la question de l'accès à la procréation médicalement assistée. Or, aujourd'hui, elle ne passe pas par le mariage, effectivement, mais en revanche, elle passe par la conjugalité, c'est-à-dire il faut être un homme et une femme et vivre ensemble. Et enfin, il me semble qu'il y a là quelque chose de très intéressant, c'est la restriction aux enfants de France. C'est-à-dire les familles de France, manifestement, s'intéressent en particulier aux enfants de France. Donc on a eu une sorte de rétrécissement, parce que ce qu'il faut bien savoir, c'est que l'adoption internationale, ça fait les Français. Donc il est tout à fait intéressant de considérer qu'au fond, les seuls enfants dont vous venez de nous parler sont les enfants qui sont déjà français, c'est-à-dire qui sont français par le sang. Et on retrouve là quelque chose qui, me semble-t-il, est caractéristique du débat que nous avons depuis quelques années. C'est que nous ne sommes pas seulement en train de parler de mariage, de famille, etc. Nous sommes aussi en train de parler d'un modèle de la nation. Et il me semble que la crainte de dénaturaliser la filiation, c'est aussi une crainte de dénaturaliser la nation, c'est-à-dire de remettre en cause une vision de souche.
Sauf que puisque vous abordez la question de l'adoption internationale, Mathieu Nossan, pour adopter à l'international quand on est un couple homosexuel, même si une loi passe en France, ça ne va pas forcément simplifier énormément les choses. Il y a un certain nombre de pays, de toute manière, qui refuseront a priori, non, cette
effectivement,
adoption.
Effectivement, vous avez tout à fait raison. C'est-à-dire que effectivement, il y a très peu de pays qui acceptent de confier un enfant à un couple homosexuel. Donc concrètement, ça ne va pas forcément changer
mais
beaucoup de choses. Parce que après, c'est des questions sociétales et
par exemple, il y a beaucoup de pays qui continuent de pénaliser l'homosexualité.
Oui, voilà.
Oui, mais
de la même façon.
Je ne parle pas de ceux qui la pénalisent.
Non, mais
ceux qui sont arriérés, là. Je suis d'accord.
Chaque pays partage votre vision des choses.
C'est tout à fait ça.
Un certain nombre de pays partagent votre vision des choses.
Et chaque société évolue à son rythme.
Dans une logique naturaliste de la différence des sexes. Absolument.
Moi, je ferais une grosse différence entre le couple homosexuel masculin et le couple homosexuel féminin. Voyez, je ferais une grosse différence parce que la sexualité masculine n'est pas la même chose que la sexualité féminine. Je ne vais pas vous faire des dessins. Et je crois qu'il faut bien réfléchir à cela et avoir, en parlant avec des personnes qui, de même sexe homme ou de même sexe femme qui vivent ensemble, quand on les interroge d'une manière sympathique, hein, je veux dire sans la moindre agressivité, je suis absolument contre l'homophobie qui est une catastrophe et je suis complètement d'accord là-dessus, on voit bien quand même une différence très importante. Dans l'homosexualité masculine, le nombre de partenaires partenaire est quand même nettement plus important dans une vie que dans l'homosexualité féminine. Alors ça, c'est des choses qui ne sont jamais dites. D'autre part, vous avez parlé de l'IFOP et du sondage IFOP. Et vous avez dit X% des Français sont favorables.
Alors, je crois que c'était 60%. Bon, les sondages valent ce qu'ils valent, mais c'était 60% en faveur du mariage et 51% en faveur de l'adoption.
Européen aujourd'hui, 60 835 votants, j'ai vu ça ce matin, 85% des gens qui votent sur Europe 1, ils sont contre le mariage homosexuel et l'adoption.
Sauf que quand c'est un institut de sondage qui fait des enquêtes, c'est légèrement plus scientifique que simplement
un appel.
Les
médias. J'ai juste une brève question.
Eric, moi, ça m'interroge, quoi.
En laissant côté le sondage, juste une très brève question. La distinction que vous faites entre la sexualité masculine et féminine, sans nous faire de dessin, est-ce que ça veut dire que vous êtes favorable à l'adoption par les lesbiennes?
Eh bien, j'y serais plus favorable.
Oui, bon, vous voyez, on avance.
Oui, j'y serais plus favorable, mais attention, dans des cas extrêmement
particuliers. Encore une génération et les gays y auront droit.
Oui. Non, mais attendez, on n'est pas là pour généraliser ou. C'est un sujet important.
Non, mais puisque vous évoquez cette distinction.
Parce que personne n'a répondu à ma question. L'enfant qui naît, qu'est-ce qu'on lui donne comme parent? Vous m'avez pas répondu.
Alors, il se trouve que Natacha Chetkuti, vous avez travaillé justement sur la question lesbienne, la représentation des lesbiennes. Il n'a pas tout à fait tort, tout de même, Henri Joyeux, en disant que la façon de vivre des couples lesbiens n'est pas la même que celle des couples gays.
Alors, c'est une réalité sociologique. Pour autant, à mon sens, elle ne peut pas justifier un traitement différentiel en termes de filiation.
Mais après, il y a quand même une différence.
Oui, il y a une différence. Alors,
c'est pas une discrimination.
Qui s'explique par une désocialisation de genre différente. C'est-à-dire qu'effectivement, on conditionne les hommes et les femmes différemment sur la question de la sexualité, sur la question de l'approche de la sexualité. C'est vrai que si on compare les trajectoires gays et lesbiennes, eh bien on peut voir qu'il y a une diversité ou plus de partenaires ou plus de modèles, par exemple, qui dissocient la sexualité de l'affect dans les couples gays, ce qui ne veut pas dire que c'est le seul modèle de référence, alors que dans les trajectoires lesbiennes, les modèles plus monogames et d'articulation entre l'affect et la sexualité, en cela, se rapprochent des femmes hétérosexuelles. Pour autant, je ne vois pas le lien que vous pouvez faire entre des formes différentes de vivre le rapport entre affect, modèle relationnel et conjugaux et sexualité, et le rapport à la filiation. À moins que vous pensiez que la filiation serait plus naturelle du côté des lesbiennes parce qu'elles seraient des femmes.
Oh non, c'est pas...
Non, je sais pas, c'est la question que vous posez.
Non, c'est pas ça que je pense. C'est simplement, je reviens sur ce que vous voulez un petit peu aplanir, sur la différence entre, je dirais, la sexualité masculine, qui vous le savez...
Les sexualités et reproduction ne sont pas liées.
Non, je parle pas de reproduction. Je parle de sexualité masculine.
Donc, ce que vous voulez dire, c'est aussi vie de famille, c'est-à-dire pour l'enfant, avoir un père
ou des parents qui changent assez souvent de partenaire, ça me paraît
donc
assez déséquilibrant.
Donc, vous seriez favorable à...
Assez déséquilibrant pour l'enfant, voilà.
Est-ce que l'adoption soit liée au nombre de partenaires? C'est-à-dire que moins on a de partenaires, plus on a d'enfants?
Non, si vous voulez, mais c'est un élément de réflexion.
Non, mais c'est une question que je pose.
Parce que sur le plan législatif, ce serait sans doute assez difficile à mettre en œuvre.
Vous savez, si on regarde les enquêtes sur la sexualité, par exemple, l'enquête sur le contexte de la sexualité en France, si on regarde les hommes et les femmes hétérosexuels, les hommes ont beaucoup plus de partenaires que les femmes.
Alors, à ce
moment-là, on a.
Mais nous sommes d'accord.
Mais l'hétérosexualité aussi, sa remise en cause.
Mieux à ce moment-là que les hétéros.
Alors, on commence la filiation chez les hétérosexuels.
Et les homosexuels masculins, ça va 17-20, quoi.
Henri Joyeux.
Ça fait beaucoup, quand même.
Henri Joyeux. J'aimerais aussi qu'on entende un tout petit peu de temps en temps.
Non, c'est passionnant.
Mathieu, c'est vrai que c'est passionnant. Et c'est vrai que, finalement, votre remarque, Eric Fassin, tout à l'heure, elle était assez juste quand vous dites que, d'une certaine manière, finir par dire que oui, peut-être que, pourquoi pas pour les couples lesbiens, dans un premier temps, avoir une sorte de différenciation, ça montre quand même qu'il y a, malgré tout, même si on sent bien qu'il y a des divergences assez profondes, mais qu'il y a malgré tout une évolution dans la façon de considérer ce que c'est que la famille française aujourd'hui.
Je ne suis pas sûr, parce que le fond de la question est vraiment celui-là, c'est-à-dire de décorréler la procréation de la conjugalité. Et c'est vraiment ça le fond de la question. Donc, quand on n'a pas réussi à comprendre que c'est là que se pose la question et que finalement, c'est déjà fait, c'est déjà le cas, et que là, c'est simplement le prolongement de cela, ça veut dire que bon, il y a encore beaucoup d'étapes à franchir, mais moi je voulais revenir quand même aussi sur cet aspect que soulignait Monsieur Joyeux, c'est-à-dire que là, on est en train de réfléchir à court terme, c'est-à-dire que on est en train d'avoir une vision sociologique de ce qu'est l'homosexualité. Alors, dans un contexte où les homosexuels ne sont pas habilités à se marier, ne sont pas habilités dans l'inconscient collectif à avoir des enfants, etc. Donc, évidemment que quand tout ça aura changé, probablement cet aspect sociologique des choses va également évoluer. évoluer. C'est-à-dire qu'on ne peut pas raisonner à aussi court terme et prendre des décisions aujourd'hui par rapport à cette situation-là. Il faut quand même se projeter dans quelques années à partir du moment où des choses auront évolué.
Nous réfléchissons sur 5 quinquennats, vous voyez, pas sur un seul. Pourquoi ? Parce qu'un enfant, il n'est pas fini avant 25 ans. Je ne sais pas si vous en avez. Moi, j'en ai eu 6. 3 garçons, 3 filles. Je connais bien le problème. Croyez-moi, il faut du temps pour faire un enfant et le rendre adulte. Bon, donc ça veut dire que nous réfléchissons, dans le cas de notre mouvement Famille de France, sur une longue période de temps et pas simplement sur demain matin quelle loi va être votée par les députés.
Absolument.
Mais je reviens toujours à ma question. L'enfant qui vient de naître, vous ne m'avez pas répondu pour savoir qu'est-ce que vous lui donnez comme parent.
On va demander à Éric Fassin de répondre à cette question.
Je crois que c'est un choix politique. C'est-à-dire, effectivement, ce que vous dites, c'est puisque il y a un nombre d'enfants adoptables en France très restreint, il faudrait hiérarchiser selon des principes et, de votre point de vue, il faudrait donner la priorité au couple constitué d'un homme et d'une femme. Vous n'avez pas dit si vous souhaitiez privilégier aussi le fait qu'ils soient mariés ou non.
Ah non, homme-femme.
D'accord.
Homme-femme,
donc c'est simplement homme-femme, comme pour la procréation médicalement assistée. Donc.
Oui, tout à fait.
Voilà. Il me semble que là, ce que ça fait, c'est que ça institue l'homophobie. C'est-à-dire que, je ne dis pas que vous êtes homophobe, non, ou que c'est pas du tout ça que je veux dire, mais ça l'institue. C'est-à-dire que ça dit, l'homosexualité, c'est moins bien. Et donc ça a des effets. Ça a des effets dans la société.
C'est pas être homophobe, c'est reconnaître une réalité mais ça l'institue. Pour l'enfant.
Je ne dis pas que c'est être homophobe, mais ça institue l'homophobie, parce que ça dit à toute la société et à tous nos enfants, c'est moins bien. Lorsque vous évoquez tout à l'heure la possibilité qu'un enfant, à l'âge adulte, se plaigne en disant, quand même, vous m'avez refilé un couple de parents de même sexe, si ça n'a pas un rapport avec l'homophobie, qu'est-ce que c'est que l'homophobie?
C'est le gosse qui va réagir.
Bien sûr, mais ça veut dire qu'on l'institue. On l'institue, c'est-à-dire qu'en disant « c'est moins bien », on suggère aux gens « c'est moins bien ». La preuve, l'État veut maintenir cette institution sacrée qu'est le mariage et la famille à l'abri de l'homosexualité.
Mais Eric, comment faites-vous donc pour cet enfant, Julie et Julie, qui sont nés, qui sont adoptables? Alors mais vous tirez au sort, faites quoi?
On les donne à la famille qui est accueillante et qui...
Mais les trois sont accueillantes.
Et après...
Vous tirez au sort?
Non, on ne tire pas au sort. Comment vous faites aujourd'hui?
On ne donne pas à tout le monde.
Comment vous faites aujourd'hui? C'est déjà le cas. Vous faites un choix. Vous faites un choix aujourd'hui par rapport aux familles que vous voyez. Il y a des familles à qui vous donnez des enfants.
Il y a un profil.
Mais oui, voilà, ça sera exactement la même chose demain. Je ne vois pas ce que ça change. Ça ne change absolument rien.
Puisque vous vous projetez dans l'avenir, je voudrais aussi qu'on revoie un petit peu, qu'on revienne un petit peu en arrière. Tout de même, je rappelais tout à l'heure que le Pax, ça ne date finalement que de 1999. Alors, je ne vais pas faire de mon cas personnel un cas général, mais il me semble que au moment du Pax, quand on évoquait la question de l'adoption par des couples homosexuels, la plupart des gens se disaient que effectivement c'était quelque chose de compliqué, qu'on savait pas très bien si pour l'enfant ça pouvait être quelque chose de bien. Aujourd'hui, on a l'impression que malgré tout cette question-là a beaucoup progressé, que peut-être parce que on connaît finalement tous, directement ou indirectement, des couples homosexuels qui élèvent des enfants. On se rend compte que finalement, les enfants sont à peu près les mêmes. Tout de même, sur cette question-là, Natacha Hachette-Cutty, quel progrès, quelle évolution en seulement une douzaine d'années? Un candidat à la présidence de la République qui affiche clairement le projet d'autoriser et le mariage homosexuel et l'adoption par des couples homosexuels réussit, malgré tout, j'ai envie de dire, malgré cette question-là, malgré cet engagement, à se faire élire.
Mais je crois qu'il y a une évolution qui vient aussi de, on en parlait au tout début de cette émission, mais du mouvement militant qui a changé. C'est-à-dire le mouvement militant qui repose depuis une vingtaine d'années sur un langage qui est plus proche du juridique, dans une rhétorique de l'égalité. Et au fond, il y a l'ouvrage de David Paternotte qui montre très bien ça, dans son travail sur le mariage gay, qui montre bien comment d'ailleurs, au fond, il y a ce qu'on appelle le triangle de velours, c'est-à-dire une articulation entre les mouvements sociaux, les experts et les représentants politiques depuis une dizaine d'années, c'est-à-dire qui tissent des liens informels et privés dans cette rhétorique de l'égalité qui va avec une citoyenneté accessible à tout le monde. Donc je pense que l'évolution, en grande partie, elle vient de là. Et du coup, qui a modifié, au fond, l'agenda politique et les priorités politiques. Et que ça devienne aujourd'hui un objet légitime dans la question... dans les discours sur l'accès à l'égalité.
Éric Fassin,
Je crois qu'à la fin des années 90, pour beaucoup de gens, ces possibilités évoquées d'ouverture de la conjugalité, mais surtout de la filiation, ça apparaissait un peu comme la fin du monde. Or, la fin du monde n'a pas eu lieu, et d'autant plus qu'il ne s'agit pas seulement de la France, nous avons parlé uniquement de la France, mais en fait, une des raisons pour lesquelles beaucoup de gens se sont rendus compte que finalement, c'était peut-être pas impensable, c'est que ça se passe chez nos voisins, au nord et au sud, c'est-à-dire y compris dans des pays catholiques comme l'Espagne.
Ou le Portugal.
Oui, avec Zapatero. Voilà, bien sûr. Mais donc ça veut dire que d'un seul coup, les gens se sont rendus compte que ce n'était pas simplement des pays qui nous paraissaient versés dans un individualisme farouche. Bien sûr. Mais disons que ça a contredit une image qu'on pouvait avoir selon laquelle ça n'était pensable que dans des pays ralliés à l'individualisme radical, etc. Bon, comme les Pays-Bas ou comme les pays scandinaves ou je ne sais quoi. Bon. Donc tout ça a été remis en cause. Mais il me semble qu'il y a eu un effet du débat politique à la fin des années 90, c'est-à-dire que ce sont des questions dont on n'avait jamais parlé avant dans la conversation générale. Et c'est devenu quelque chose où les gens croyaient avoir des opinions définitives et ils les ont remises en cause. Et c'est pour ça qu'on voit une évolution des sondages qui est incroyable. Et ça n'est pas seulement en France, c'est vrai aux États-Unis aussi. Malgré des résistances très fortes, il y a une évolution dans les sondages qui est continue. Et une des raisons pour lesquelles il y a cette évolution, c'est précisément parce que ces débats ont eu lieu, parce qu'il y a des endroits où la loi est passée, etc. C'est-à-dire qu'il y a eu une pédagogie, et cette pédagogie, elle est traduite dans une différence de génération. C'est-à-dire que plus on est jeune, plus on est favorable à l'égalité des droits. Et ça, c'est vrai dans tous les pays. Donc, il y a là-dessus une pédagogie qui aura, pour l'instant, mieux marché sur les plus jeunes. Et c'est normal, mais ça va avoir des effets. C'est-à-dire que ces plus jeunes, ils vont devenir plus âgés. Et dans 15-20 ans, eh bien, les plus âgés aussi seront ralliés à ces positions.
En 99, le clivage, c'était un clivage, pour caricaturer un petit peu, un clivage droite-gauche. Aujourd'hui, Éric Fassin, si clivage il y a sur ces questions-là, est-ce qu'on est encore dans un clivage partisan ou bien est-ce que ça recoupe d'autres...
Je dirais presque l'inverse, c'est-à-dire qu'à la fin des années 90, le Parti Socialiste, par exemple, était très divisé sur ces questions. C'est la raison pour laquelle le PACS, dans un premier temps, avait échoué. Et même lorsque le PACS a été voté, les responsables socialistes, y compris la garde des Sceaux de l'époque, insistaient sur le fait que, bien entendu, on n'ouvrirait jamais les droits en matière de filiation, etc. Donc la gauche a beaucoup changé. Et aujourd'hui, on est devant, effectivement, un clivage droite-gauche qui va poser beaucoup de problèmes à la droite, parce que la droite, devant cette revendication, va être partagée. Est-ce qu'elle va choisir la modernité ou est-ce qu'elle va choisir de camper sur des positions qui risquent de la marginaliser?
Même s'il y a un certain nombre de personnalités de droite, je pense à Roselyne Bachelot, Jean-Louis Borloo, Dominique de Villepin,
mais elle va être partagée.
Alors, Henri Joyeux et ensuite Mathieu Nossan.
Je ne suis pas d'accord avec vous, Éric Fassin, c'est quand vous dites pédagogie. Ce n'est pas de la pédagogie, c'est du bourrage de crâne. On a eu du bourrage de crâne sur les radios, sur les télés, partout, sur ce sujet, en disant tous ceux qui ne sont pas d'accord, ils sont homophobes. Et d'ailleurs, vous avez utilisé l'argument d'homophobie quand j'ai dit
Dit que vous n'étiez pas homophobe.
Mais vous utilisez l'argument en disant vous allez créer de l'homophobie parce que le petit qui vient de naître, vous lui donnez un papa et une maman, et celui-là, vous lui donnez deux papas en lui disant t'as pas de maman, etc. Non, je ne suis pas d'accord avec ça. Je crois que là, vous ne regardez pas. Attendez. Vous ne regardez pas l'intérêt de l'enfant. Vous regardez l'intérêt des parents. L'enfant n'est pas un doudou. L'enfant, c'est pas le droit à l'enfant, c'est le droit de l'enfant.
Encore une fois, Parce qu'encore une fois, l'intérêt de l'enfant, c'est de voir tous ses parents reconnus.
Alors on vous dit maintenant que les couples hétérosexuels se disputent plus que les couples homosexuels.
Sans doute de la même façon. Mathieu Nossan, qui est quand même celui qui ne pourra pas le plus parler.
Je dis simplement que l'intérêt de l'enfant, c'est que cet enfant voit tous ses parents reconnus, qu'il y a un vrai lien de filiation avec tous ses parents. C'est ça l'intérêt de l'enfant. Par ailleurs, moi je voudrais revenir sur l'évolution des mentalités. Je pense que l'évolution des mentalités, c'est effectivement, il y a effectivement un gap générationnel qui est lié aussi au fait qu'aujourd'hui les enfants ont parmi leurs copains de classe des enfants qui vivent dans les familles homoparentales. On voit bien, Barack Obama l'a dit, que sa décision a aussi été influencée par le fait que c'est pour ses filles, c'est tout à fait normal. Ouais. Elles ont des camarades qui vivent dans les familles homoparentales. Et pour elle, c'est tout à fait normal. Donc, effectivement, il y a une question générationnelle. Par ailleurs, on a aussi aujourd'hui un recul qui est plus important qu'en 1999 et qu'il y a plein d'études qui sont sorties et qui montrent que...
C'est biaisé, ces études.
Non, absolument pas. Qui montrent toutes, effectivement...
Il n'y a pas d'études qui disent le contraire.
Oui, voilà.
Mais bien sûr, parce que c'est le bourrage de crâne médiatique. L'objectif.
Il y a beaucoup de think tanks conservateurs, je ne les ai pas vus dire d'études disant le contraire.
Pour revenir à la question...
Natacha Chetkuti.
À la question de l'intérêt de l'enfant. Alors, on va regarder un autre chiffre qui est celui des violences. Oui. Si on regarde la question, par exemple, des violences faites aux femmes, oui. la majorité des violences se font dans l'espace du privé oui. et un certain nombre sont vécues dans le cadre de la famille par les hommes proches, dont les pères. Donc ça pose
Alors,
question.
S'il y a deux pères, ça va être pire, madame.
Non. Donc ça pose question par rapport à ce que vous dites, c'est-à-dire oui. pourquoi le principe de l'hétérosexualité, puis c'est de ça dont vous parlez, oui. qui serait le régime de l'altérité mmh. nécessaire au bien-être d'un enfant, comment peut-il se justifier quand on regarde les réalités sociologiques diverses, dont par exemple la question Alors, des
qu'il
violences.
Qu'il y ait des parents qui, ne vont, qui n'aillent pas bien, je suis complètement d'accord avec vous, mais ne généralisez pas.
Mais ne généralisez pas.
Vous
sociaux.
Avez 85% aujourd'hui des familles où il y a un père et une mère, et ça ne se passe pas si mal que ça. Bon, donc il faut faire attention de ne pas faire le zoom que sur les problèmes de sexualité du père qui, ou de violence
non,
dans
non,
la famille.
Non, ce n'est pas des problèmes psychologiques.
Oui. Non. Enfin, ce n'est pas des problèmes psychologiques. Quand on est un peu violent, je pense qu'il y a des problèmes psychologiques qui ne vont pas bien.
Vous n'allez quand même pas jusqu'à dire, Natacha Chetkouti, que finalement, la famille idéale, ça serait le couple lesbien,
ni lesbien ni gay, ça va venir.
Sinon, si vous dites pas ça, vous êtes homophobe ou hétérophobe.
Non,
je
crois que dans une société où il existe une pluralité de modèles, chaque individu a la liberté de pouvoir oui. choisir l'un ou l'autre. Non, il n'y a aucune préférence pour un modèle.
Non, mais vous dites individu, et là vous parlez d'adulte. Donc vous donnez à l'adulte le droit de faire ce qu'il veut de l'enfant. Et moi je réponds là-dessus,
vous savez,
non. L'enfant a besoin idéalement d'un père et d'une mère. Ne restons pas hors, n'allons pas hors de cet idéal.
Mais en Espagne, la légalité...
Et puis surtout, ce qui n'est jamais dit.
Ce que je ne comprends pas, c'est qu'il n'y a aucune réalité scientifique et sociologique derrière ce que vous venez d'affirmer.
Des millénaires,
que
ça vous suffit pas.
Non, des millénaires, ça c'est simplement de l'ordre symbolique.
De masculine.
Oui, c'est
voilà,
ça.
C'est simplement ça.
Pourquoi Europe 1, vous avez 85% des gens sur Europe 1 aujourd'hui.
Sur France Culture,
oui, non, mais ça m'est égal. Mais 60 835 personnes qui votent, et vous en avez 85 pour dire.
Mais parce que vous avez mobilisé probablement les gens.
Mais c'est pas moi qui ai mobilisé.
Eric Fassin,
vous êtes à 12% contre.
On est presque au terme de l'émission. Eric Fassin, est-ce que c'est au législateur de définir ce que devrait être la famille française?
Est-ce que c'est toujours le cas?
Ça a toujours été ça.
C'est toujours le cas. C'est-à-dire que la famille est une institution sociale. Ça n'est pas une institution naturelle. C'est la raison pour laquelle il n'y a pas de raison pour qu'elle soit fondée sur la biologie. Et elle ne l'est déjà pas. Donc, il me semble que nous faisons des choix politiques qui vont définir ce que nous choisissons d'appeler une famille avec des conséquences politiques, c'est-à-dire que la reconnaissance, ça a des effets, y compris pour des allocations familiales, par exemple. Donc, nous parlons bien de politique. La famille, c'est politique. Donc, en vertu de quelles valeurs politiques choisissons-nous de définir la famille? Lorsqu'on entend parler de droit à l'enfant, évidemment, personne ne revendique un droit absolu à l'enfant. La question, c'est que on se pose seulement cette question de l'égoïsme ou de l'hédonisme à propos des homosexuels. Moi, je ne connais pas beaucoup de gens qui veulent avoir des enfants sans en avoir le désir. Ce serait une contradiction dans les termes. Donc pourquoi s'inquiète-t-on seulement lorsque ce sont des homosexuels qui disent « j'ai envie d'avoir des enfants » ?
Parce que, tout simplement, Eric Fassin, je pense que vous êtes père de famille et que vous avez dû remarquer que le rôle du père et de la mère n'est pas le même dans une famille, n'est pas le même. Et que...
Il est variable selon les familles.
Oui, il est variable, mais même quand vous...
Enfin, le père de 2012 n'a pas tout à fait la même place dans la famille que le père dans les années 60,
Un gosse de 6 ans qui vit avec deux pères. On lui dit, tu vas dessiner une famille. Il a dessiné un homme et une femme. C'est joli, ça, à 6 ans, parce qu'ils ne sont pas fous, les enfants. Ils sont parfois plus intelligents que nous les adultes, parce que nous avons, je dirais, des délires qui peuvent être liés aussi à la science, parce que j'ai bien entendu ce que vous avez dit, et je pense qu'aujourd'hui, par exemple, si vous voulez faire un enfant biologiquement, vous ne pouvez pas tout seul, vous ne pouvez pas le faire en France, vous passez à l'étranger.
Donc pour vous réjouir, il y aurait une réalité naturelle de la famille et pas sociologique, c'est-à-dire que la famille, elle existe
non, la réalité,
a priori.
C'est, moi, je pense à l'enfant, je dis que l'enfant, pour l'aider à se construire, et Dieu sait que ce n'est pas facile, nous avons tous c'était des enfants, c'est quand même mieux qu'il y ait un père et une mère qui ne se cassent pas la gueule tous les matins, qui s'entendent bien et qui aient, je dirais, des complémentarités. Voilà, tout simplement. Et je pense que ça, ça ne changera pas.
Mathieu Nossan.
Malgré toute la sociologie.
Je ne sais pas, là vous parlez d'altérité et vous confondez l'altérité sexuelle avec l'altérité tout court. Voilà. C'est, ce que je peux dire, c'est simplement ça. C'est-à-dire que quand un enfant a deux papas, c'est deux papas différents. Il trouve l'altérité à la fois au sein de sa famille, mais aussi en dehors de sa famille, avec toutes les femmes, avec toutes les femmes.
Comme je suis un petit peu vieille France, je vais laisser le dernier mot à Natacha Chetkouti, la seule femme autour de cette table.
Même si je pense, pour revenir quand même à ce qu'on a dit tout à l'heure, que le couple, l'homosexualité ne doit pas passer que par la reconnaissance du couple, mais la non-reconnaissance aussi du couple ou de la question de la filiation peut engendrer de gros problèmes pour les enfants dont vous parlez.
Merci beaucoup à tous les quatre d'avoir participé à cette discussion vive et fort intéressante.
Qu'est-ce que c'est que l'homosexualité? Ça, ça n'a jamais été vraiment discuté. C'est-à-dire, quelles sont les causes de l'homosexualité? Parce qu'on nous dit souvent que c'est génétique et c'est pas vrai.
Alors là, vous vous repartez de loin. Là. Merci beaucoup, en tout cas, Henri Joyeux, Mathieu Nossan, Natacha Chetkouti et Eric Fassin d'avoir participé à cette émission. Émission préparée avec Julie Gacon, Fanny Richer, Céline Leclerc, Géraldine Amblard, Augustinus, notre stagiaire Mélodie Lucchesi. À la réalisation aujourd'hui, il y avait Midia Portis-Guérin, à la technique Bastien Varigaud. On se retrouve lundi prochain à 18h20 et tout de suite, c'est le rendez-vous avec Laurent Goumard. Bonsoir.